Quand tout va mal, quand notre monde va mal, quand nous sommes dans l'épreuve, dans le temps de pandémie, etc. Heureusement qu'à la fin du texte, le Seigneur nous dit « Il est fidèle celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. » Comment le fait-il? Comment va-t-il le faire? Comment allons-nous pouvoir garder ce commandement du Seigneur? En toutes circonstances, soyez dans la joie, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Le thème qui nous est donné aussi de ce dimanche avec Jean-Baptiste et la première lecture, c'est par la venue du Messie. Mais comment imaginons-nous ce Messie? Alors que Jean-Baptiste a prêché la parole de Dieu, annonçait que le royaume de Dieu est proche, la même prédication que Jésus, on lui demande mais qui es-tu? Et on passe en revue, on entend derrière es-tu le Christ, es-tu Élie, es-tu le prophète annoncé? On entend les différentes conceptions que l'on peut avoir du Messie. On attend un Messie qui va faire le Messie. Le Messie, c'est loin, c'est celui qui a reçu l'onction. Alors, dans l'onction dans la Bible, c'est à la fois sur le prophète ou sur le roi ou sur le prêtre. Et on imagine effectivement le Seigneur comme un roi qui va tout rétablir, mettre les Romains dehors et remettre la justice, ou comme un prophète puissant. Le prophète, d'ailleurs, ici, le prophète annoncé, c'est un qui sera comme Moïse, hein, qui va redonner la loi, qui va conduire le peuple, qui va sauver le peuple d'une manière à main forte et à bras étendus, ou encore comme le prophète annoncé, ou Élie. Élie, c'est une figure encore différente, un prophète, mais c'est le héros de Dieu, avec une puissance extraordinaire, qui commande au ciel, qui fait venir la pluie ou la sécheresse, qui fait descendre le feu du ciel sur la terre, qui renverse des rois, qui institue de nouveaux rois. Le personnage de Jean-Baptiste, dans cette triple négation, nous montre autre chose. Et il se présente comme avec cette humilité extraordinaire. Dans le prophète Isaïe, dont nous avons entendu la lecture, si celui qui est oint, celui qui va être le prophète, il annonce la bonne nouvelle aux humbles, aux cœurs brisés, à celui qui sont prisonniers, c'est que le peuple, à ce moment-là, on lui annonce cette joie, on annonce cette renaissance, mais dans un moment de crise aussi, parce que le peuple vient de rentrer d'exil, il attendait ça d'une manière extraordinaire, et puis on arrive, on pensait retourner à Jérusalem, et on est retourné à Jérusalem, mais on pensait que ça allait être vraiment la restauration, et puis on s'aperçoit qu'il y a des gens qui se sont installés, d'autres personnes qui ont été déplacés, comme le peuple d'Israël était déplacé, qui sont venus à Jérusalem, qui occupent les lieux, et puis il y a eu des alliances entre des Juifs qui sont restés et ces étrangers, et la foi est difficile, et on met des bâtons dans les roues de toute manière. Et pourtant, il est annoncé cette joie. L'Évangile ne se développe jamais dans des circonstances, j'allais dire, favorables. Mais c'est toujours le sens de l'épreuve. Et nous qui vivons des temps d'épreuve mondialement, c'est un temps pour nous apprendre à faire la vérité. Au début du prophète Isaïe, vous avez dans le premier chapitre, la description d'Israël qui va mal, qui ne comprend pas la parole de Dieu, qui ne suit pas, qui le peuple entier qui ne suit pas la loi du Seigneur, qui n'arrive pas à se débrouiller, qui est dans tous ses travers. Et alors le Seigneur dit, venez, discutons, venez. Parce que le moment de l'épreuve est le moment de la vérité de notre cœur. Quand tout va bien, eh bien, nous pouvons nous laisser vivre. Et puis, bien sûr qu'il y a du malheur dans le monde, il y a des difficultés, il y a des pauvres, mais ça reste pour nous un peu abstrait. On peut se laisser conduire suivant nos habitudes, suivant nos penchants. Au moment de l'épreuve, nous sommes mis devant la réalité de notre être. Est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va se relever? Est-ce qu'on va prendre une option pour trouver la porte qui va nous aider à sortir? Et notre cœur peut se révéler, bien sûr, il peut continuer à plonger. Mais le Seigneur qui vient, il est là justement pour nous apprendre à aller au fond de notre cœur. Et sa grâce, elle est là justement, et toute l'action du Messie va être nous apprendre à renaître. Je ne sais pas si vous avez été frappé par le dernier verset de l'évangile de Jean. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, c'est l'endroit où Jean baptisait. Qu'est-ce que ça veut dire, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert? C'est d'abord ce lieu dans le désert, c'est tout près de l'embouchure avec la mer morte, ce désert terrible parce que c'est vraiment la sécheresse totale et dans la mer morte, il n'y a ni vie, ni faune, ni flore. C'est le lieu le plus bas de la terre, vous pouvez regarder dans les atlas ou dans le Guinness des records, c'est le lieu le plus bas avec une chaleur, une pression impressionnante. Ce lieu de la désolation. Et Jean-Baptiste est cette voix qui clame dans le désert. Alors, pour nous, prêcher dans le désert, ça veut dire prêcher là où il n'y a personne. Mais là, il y a beaucoup de monde qui va. Il y a beaucoup de monde qui est attiré. C'est une voix qui clame et qui annonce redresser, abaisser les collines, redresser les chemins, qui est effectivement, en écho avec Isaïe, la parole du peuple qui revient d'exil, qui va renaître. Et ce que propose Jean-Baptiste, c'est une expérience spirituelle, ce qui nous est proposé pendant le temps de l'Avent. L'Avent, c'est pour vivre une expérience spirituelle. Aller au fond de notre cœur. Oser descendre dans les profondeurs où nous jette l'épreuve. Et il fait ressortir de la terre d'Israël le peuple en passant de l'autre côté du Jourdain. Parce que nous vivons notre foi, bien souvent, comme quelque chose d'acquis, et nous vivons finalement une vie religieuse, quelquefois notre dimension religieuse, un peu frelatée, un peu qui manque un peu d'irriguer toute notre vie, notre action, notre pensée. Et il fait ressortir pour refaire cette expérience du don de la terre qui est le don du Seigneur et qui est ce don du Seigneur pour que nous puissions vivre suivant sa volonté, suivant la plénitude de vie qu'il veut nous donner. Alors, il fait passer les gens dans l'eau du Jourdain, par ce baptême qui est un rite déjà dans le judaïsme de purification, se baigner dans l'eau courante, avec une particularité, c'est qu'ici il fait confesser ses péchés, c'est-à-dire descendre dans ce qui est nos ténèbres, et puis pour ressortir et rentrer de nouveau dans l'héritage, redécouvrir, apprendre à renaître. Et nous qui nous préparons à Noël, on pourrait considérer Noël comme l'anniversaire de Jésus. mais ce serait une manière bien frelatée encore de célébrer ce mystère. Car pourquoi le Seigneur a-t-il voulu naître ? Pour que nous-mêmes nous renaissions. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous fêterons vraiment Noël si nous renaissons. C'est pour nous faire naître que le Christ est né. Pour nous faire naître à cette vie de Dieu, il a pris notre chair. Il s'est revêtu de notre chair pour que nous puissions être revêtus de la grâce divine, de son être de fils de Dieu, pour que nous puissions porter ce vêtement de salut, ce diadème, cette vocation royale, prophétique, sacerdotale que nous avons tous, pour que nous puissions être oints comme nous l'avons été à notre baptême, comme à notre confirmation, pour que nous puissions être ces messies envoyés, non pas dans le fait que nous allons tout arranger et puis voilà, ça va être... Non, mais comment ? En découvrant, eh bien, la réalité au sein de l'épreuve. Le pape François insiste beaucoup à plusieurs endroits, mais notamment aussi en nous donnant Saint-Joseph, une année avec Saint-Joseph, pour redécouvrir dans le quotidien, pour redécouvrir que le salut, il vient dans les gestes simples, concrets, mais dans cet engagement pour le service, pour la charité. Et il honore ainsi tous les hommes de l'ombre, parce que nous gisons bien souvent dans l'ombre, mais pour accéder à la lumière. Et nous l'avons entendu avec Jean-Baptiste, à être les témoins de la lumière. Les témoins de la lumière par notre parole, par nos actes. Et c'est cette cohorte, et on a vu, on peut rester avec un sens, je disais, des pauvres abstraits, et puis, dans un temps d'épreuve, dans un temps de pandémie, on a vu des gens, eh bien, se lever sans crainte de servir, d'exposer leur vie, de se donner, de secourir les malades. Et cela nous oblige à repenser, à revoir notre vie. À revoir aussi, ça nous apprend à descendre notre cœur, c'est encore le pape François qui redit ça, hein, à voir non seulement à partir de cette épreuve, mais de voir aussi toutes les autres injustices et oser rêver, dit-il, eh bien, une société, en commençant par notre vie, mais une société où on donne une place à chacun, où on permet à chacun de vivre, et non pas en acceptant les exclus, les autres, ceux qui viennent nous embêter, nous empêcher de vivre notre vie confortable, mais en rentrant, n'éteignez pas l'esprit, dit encore, cet esprit qui nous pousse, qui veut nous oindre, qui veut nous pénétrer, afin que nous puissions, dans le Christ, avec le Christ, eh bien, annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir les cœurs brisés, libérer tous ceux qui sont dans leur prison, dans toutes les prisons dans lesquelles nous pouvons vivre, dans toutes ces dimensions de mort. Alors oui, le Seigneur nous demande, nous invite à nous lever, nous invite à rentrer dans cette joie. Cette joie, voyez, renouvelée, parce que cette joie d'un cœur qui sait s'engager, qui sait regarder celui qui est l'autre, qui est aussi ma propre chair, celui qui est mon frère, celui qui... Est-ce que je peux regarder chacun comme étant vraiment mon frère de ma famille, qui m'importe et qui, même si nous ne partageons pas toujours, et Dieu sait si dans les familles il y a des difficultés, des dissensions quelquefois, mais ça reste... Mon frère, ça reste mon sang, et je ne peux pas m'en désintéresser. Et de trouver des chemins pour la réconciliation, pour permettre à chacun de donner son fruit. Alors, Oui, demandons de rentrer de cette joie, cette renaissance de notre cœur, parce que la vie en plénitude nous est donnée, et dans un temps d'épreuve, en faisant effectivement, en étant, j'allais dire, un peu au pied du mur de notre être, mais de retrouver la porte qui va s'ouvrir. Un temps quand le mal nous étreint, quand le mal vient au devant de nous, hein, que ce soit un mal extérieur, que ce soit le mal intérieur, que ce soit des causes extérieures, que ce soit le péché des autres ou de nous-mêmes, eh bien, c'est comme si notre vie était fermée, était bouclée, la porte est fermée. Du moins, nous avons un mur. Et la miséricorde de Dieu, et on le vit d'une manière spéciale dans le sacrement de la réconciliation, quand on arrive avec nos incapacités, les choses qui nous empêchent de nous regarder en face, hein, de nous regarder dans la glace, d'avoir un peu d'estime de nous-mêmes, eh bien, le Seigneur nous ouvre une porte. Voilà Noël. Voilà cette bonne nouvelle que le Seigneur vient nous apporter dans notre faiblesse, peut-être d'une manière fragile, comme Jésus, enfant, est fragile, mais il est vraiment le Messie, il veut vraiment nous oindre, il veut vraiment nous associer à sa mission, nous partager le cadeau qu'il nous apporte de la part du Père. Amen.